C'est une énorme paracha. C'est une paracha dans laquelle il se passe des choses terribles. Paracha qui contient le mot d'or. Mais curieusement, elle commence par quelque chose de très, de très positif, si on peut parler comme ça. La première chose dont nous parle, dont on nous parle dans Parshat Kitissa, c'est Martita Shekel. C'est le 2000 Shekel. Le Shekel, c'est cette pièce, cette pièce d'un demi-shekel que tout le monde devait donner, à peu près maintenant, là, et qui servait à abonder la caisse à partir de laquelle on allait acheter les korbanot tzibour. Les korbanot qu'on amène tous les jours, qu'on amène Shabbat, Yom Tov, etc. Les korbanot du tzibour. Ils sont achetés avec une caisse, à partir d'une caisse, si vous voulez, qui est la caisse du Klal Israël. C'est pas la caisse des associés. C'est pas une caisse où chacun. C'est de l'argent qu'on a mis et quelque part, cet argent, il ne porte plus du tout le nom de celui qui l'a mis. Cette caisse, c'est la caisse du Klal Israël. Point barre. Et c'est, alors vous pouvez dire, bon, ben alors c'est une forme de tzedaka comme une autre. Non, c'est pas une forme tellement classique, dans la mesure où, je vais juste citer ça, puisque on est un peu dans l'ambiance, lorsque l'étoile de Haman a pâli, il est entré dans un Beit HaMidrash et il a vu que les enfants étudiaient. Il leur a demandé ce qu'ils étudiaient. Ils ont dit, on étudie Martita Shekel. On lui a expliqué ce que c'était. Alors, il a dit, le Martita Shekel dont vous avez parlé, là, il a été plus fort que tout l'argent. Vous vous souvenez, Haman a proposé à Achashverosh d'acheter les Juifs. Il avait dit, je donnerai 10 000 morceaux de, enfin, 10 000, je sais pas quoi, d'argent. Mais cet argent-là, Achashverosh n'a pas voulu le prendre parce qu'il ne voulait pas être dépendant d'Aman. Il savait très bien qu'Aman était son ennemi. Donc, il ne voulait pas être redevable, quoi que ce soit. Et il avait assez d'argent, il n'avait pas besoin de ça. Mais il lui a dit, je te donne les Juifs quand même, même gratuitement. Et donc, Aman a dit, votre Martita Shekel, il a été plus fort que les 10 000 kikar kesef que je voulais donner, que j'ai donné à Achashverosh, qui ne les a pas pris. Mais... Donc, ce Martita Shekel, il joue un rôle très, très important dans la survie du clan d'Israël. Rien que le fait, d'ailleurs, que ce soit à partir de ce Martita Shekel qu'on achète tous les korbanot, qui vont être les korbanot du Sibour. On comprend très bien qu'il s'agit là de quelque chose de tout à fait particulier. Bon, on en reparlera peut-être dans le Parshat Shkalim, parce qu'il y a un moment où on va lire ce petit morceau-là, on va le lire spécialement dans l'un des quatre Shabbatot avant Pessah, où on va lire quatre Parshiot avant Pessah. Donc, il y a ça. Et ensuite, arrive la tragédie, en fait. Alors, juste avant, comment ça se présente, Hachem, vous vous souvenez, Hachem a donné les Aseret HaDibrot au clan d'Israël. Et le clan d'Israël a entendu les deux premières Dibrot directement de la bouche d'Hachem, si on peut parler comme ça. Et alors, il faut se souvenir de ce que, quand ils entendaient une de ces paroles-là, ils étaient projetés en arrière, ils mouraient, ils ressuscitaient, et quand ils ressuscitaient, la parole qu'ils avaient entendue étaient à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est-à-dire que, par exemple, quand ils ont entendu la deuxième parole qui disait « Tu n'auras pas d'autre Dieu », etc., eh bien, c'était en eux, donc il n'était plus possible d'avoir d'autres dieux. C'est-à-dire que leur acceptation les avait fait sortir de l'idolâtrie. Donc, c'est important, mais on va expliquer. Donc, je vais d'abord commencer par expliquer un peu ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que après les deux premières paroles, les Bnei Israël ont dit à Moshe Rabbeinu, ils lui ont dit « Daber ata imanu ». Nous, on ne veut plus entendre directement la parole d'Hachem. C'est trop bouleversant, ça ne nous convient pas. Alors, toi, tu vas l'entendre et tu vas nous la retransmettre. Par conséquent, tu vas être, toi, une espèce de transformateur, si vous voulez. C'est comme si la parole divine était à des milliers de volts, des milliers de kilovolts, si vous voulez, je ne sais pas, teravolts, si vous voulez. Et quand Moshe la retransmettait, elle était audible de façon bouleversante peut-être, mais pas au point de les faire reculer en arrière, de les faire mourir, insister. Tout ça, ça n'existait plus. Or, on en avait parlé dans Parashat Yitro, quand Akadosh Baruch Hu a parlé les 10 paroles en question, avant de les énumérer, une après l'autre, il a commencé par les dire tout ensemble. Bon, le pasouk dit que Akadosh Baruch Hu a dit toutes les Aseret HaDibrot ensemble. Des choses que personne ne peut entendre. Et la question qui se pose, c'est dans ce cas-là, à quoi ça sert? Alors, il est écrit dans la Torah qu'on les a entendus tout ensemble, mais on n'a rien compris, évidemment. Alors, après les avoir dites tout ensemble, Akadosh Baruch Hu les a réénumérés l'une après l'autre, de telle sorte qu'on puisse les entendre. Et la fonction de les dire toutes ensemble, c'est de bien enseigner qu'elles forment un tout, que ces 10 paroles forment un tout. Forment un tout, ça veut dire que tu ne peux pas venir faire ton marché là-dedans. Dans ces 10 paroles. Donc, je ne veux pas maintenant entrer dans le détail puisque de cela, mais ça veut dire, si vous voulez, que l'otirtsach, tu ne tueras pas, est inséparable de la mitzvah de Shabbat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envisager séparément le Lo Tirtzach. Tu ne tueras pas. Non, ce n'est pas comme ça. Tu ne tueras pas, tu ne peux vraiment le comprendre ce que la Torah veut de toi, que si tu entends en même temps le Anochi, le Yelcha, et le Kibud Avaim, Shabbat, et les autres, l'Otinaf, etc. Chacun est absolument lié aux autres. On ne peut pas faire son marché, on ne peut pas choisir. Et c'est ce qu'ont fait les chrétiens, etc., qui ont choisi. Dans la Aseret HaDibrot, ils en ont enlevé ce qui les dérangeait, ils ont enlevé ce qui les dérangeait, ils en ont mis d'autres. Les Aseret HaDibrot que les Bnei Israël ont reçus, elle forme un tout. Et donc, ça donne une dimension tout à fait différente à des choses qui nous paraissent évidentes, comme le Tirtsach ou le Tignov, etc. Ça prend des dimensions différentes. parce qu'il faut les entendre avec les autres. C'est ce que les Bnei Israël n'ont pas entendu. Les Bnei Israël n'ont pas entendu les 10 paroles au même niveau. Ils en ont entendu 2 d'un côté, puis après, c'est Moshe Rabbeinu qui leur a parlé. S'ils avaient tout entendu, alors ce que je vous ai dit, que chacune des paroles s'est inscrite en eux, et donc est devenue une partie d'eux-mêmes, enfin, l'histoire était terminée, parce que par leur acceptation de tout cela, de toute la Torah, c'était terminé, ça veut dire. L'histoire était terminée. Mais parce que ils n'ont pas entendu les autres de la même manière, alors ceux qui s'étaient, la deuxième qui s'était fichée en eux, qui normalement aurait dû leur empêcher l'idolâtrie, ne l'a pas empêchée parce que elle n'a pas été entendue avec toutes les autres, de la même manière que les autres. C'est pour ça qu'on peut comprendre qu'ils aient eu la possibilité de faire le veau d'or. Parce que quelle que soit la vraie dimension d'Avodah Zara, du veau d'or, etc., de toute manière, il ne serait pas été possible s'ils avaient entendu les 10 paroles. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, il y a eu donc cette installation de Moshe Rabbeinu à une place un peu ambiguë. Parce que quelque part, c'est vrai que toute la Torah, elle passait par la bouche de Moshe. Mais ici, Moshe Rabbeinu a été mis à la place d'Hachem, si on peut parler comme ça. Moshe Rabbeinu est devenu c'est lui qui parlait. Il savait au fond d'eux-mêmes que ce que Moshe disait, c'était ce qu'il avait reçu d'Hachem. Il ne faisait que dire les choses à une hauteur qui était audible pour eux sans qu'ils en meurent, etc. Mais finalement, ils ont mis Moshe dans cette position très ambiguë. Et ça va être désastreux, en fait. Alors, les Bnei Israël ont entendu le 6 Sivan, ils ont reçu la Torah, ils ont reçu l'enseignement. Ensuite, Moshe Rabbeinu est monté pour 40 jours sur le Sinaï pour apprendre la Torah. Il a appris la Torah, il a essayé de l'apprendre plus exactement, mais il n'y arrivait pas. Il n'y est pas arrivé, en fait. Malgré tous ses efforts, il n'y est pas arrivé. Il a essayé 40 jours, ça n'a pas marché. Du coup, Hachem la lui a donnée. Bien. Ensuite, Akadosh Baruch Hu a donné, le 40e jour, il a donné à Moshe Rabbeinu les luchot, les tables. 2 tables de pierre, on prend ça comme ça, sur lesquelles étaient gravées le Etzva Elohim, les paroles de Hachem étaient gravées sur les tables. Et on était au moment de la passation des tables. Chazal disent que les tables, elles faisaient 6 tfachim, 60 cm. 20 cm étaient dans la main d'Hachem, si on peut parler comme ça. 20 cm dans celle de Moshe. Et entre les deux, il y avait 20 cm. Et au moment où Moshe Rabbeinu reçoit les tables, au même moment, lui, il est sur la montagne, au pied de la montagne, les Bnei Israël sont en train de faire le veau d'or. Alors Hachem dit à Moshe Rabbeinu, il lui dit, « Lech red, kishichet amcha. » Redescends. Ton peuple a fauté. Ton peuple s'est fourvoyé. Shichet, ça veut dire ashrata, c'est détruit, quoi, quasiment. Alors, Chazal disent que Moshe Rabbeinu a arraché les tables. Il les a prises entièrement de son côté. Donc, il les a arrachées, si on peut parler, de la main d'Hachem. Et il va descendre de la montagne, avec les, il a les louchot dans les mains. Quand Moshe Rabbeinu est parti, donc le Sissivan, il leur a dit, je pars pour 40 jours, et je serai revenu d'ici la sixième heure. Il y a toujours un problème ici quand on compte les jours. Est-ce qu'il faut compter le premier jour? Le jour du départ, est-ce que c'est le jour 1? Ou le jour du départ, c'est zéro et on commence à compter le lendemain? Alors, mon cher Rabbeinu, il leur a dit, je pars pour 40 jours, des jours complets. Un jour complet, il est formé d'une nuit et d'un jour. Le premier jour, quand mon cher Rabbeinu quitte le camp des Bnei Israël, il part deux jours. Ce jour-là, il ne peut pas compter puisqu'il n'a pas de nuit. Sa nuit est passée avant qu'il ne parte. Donc le premier jour ne comptait pas. Donc dans le décompte, mon cher Rabbeinu, si vous faites le compte, il devait revenir le 17 Tammuz. Mais les Bnei Israël se sont trompés. Les Bnei Israël, ils ont compté le premier jour. Donc les 40 jours, ça terminait le 16 Tammuz. Pour le 16 Tammuz, après la sixième heure, Moshe n'était pas là. Donc le peuple, eux, ils ont reçu ça. Ils ont dit, le pasouk utilise un drôle de mot qui n'existe qu'une seule fois dans la Torah ici. Boshesh, Moshe. Boshesh. Ce mot, il n'existe pas dans la Torah, à part ici. Il y a deux occurrences dans le Sefer Shoftim, dans le livre des juges, dont Rashi va parler. Alors, le problème, c'est que pourquoi la Torah elle utilise un mot qui n'existe nulle part ailleurs? C'est parce que ça veut dire Boshesh. Alors, certains veulent lire, mais c'est comme si c'était marqué Bashesh. La sixième heure est arrivée et Moshe n'était pas là. Il n'était pas là parce que la sixième heure qui est arrivée, c'est la sixième du 16 Tammuz et pas celle du 17 Tammuz. Alors les Bnei Israël t'ont dit, c'est pas possible que Moshe soit en retard. Et à ce moment-là, il y a tout un cinéma qui est fabriqué par le Satan. Le Satan, il leur a fait croire que Moshe était mort. Premièrement, il a fait en sorte que il y a eu une espèce de brouillard, mélange de nuit et de jour, tout était mélangé, tout chamboulé. Le monde était chamboulé, et donc il a dit, moi, c'est la mort de Moshe qui chamboule le monde. Ensuite, les Bnei Israël ont été victimes d'une espèce d'hallucination collective. Satan leur a montré quelque chose qui était comme le corps mort de Moshe, qui circulait comme ça. Moshe était entre ciel et terre, si vous voulez. Alors les Bnei Israël se sont immédiatement tournés vers Aaron et ils ont dit à Aaron, Asselanu, fais-nous, tu vas nous fabriquer. Alors, lis tout le verset. C'est le premier verset de chapitre 32, Lamed Bet Aleph. Vayar Ha'am, le peuple a vu, qui voshesh Moshe, que Moshe, on va dire, était en retard, la redet minahar, quand il devait descendre de la montagne, Vaikahel Ha'am, le peuple s'est rassemblé, Kahal, Al Aaron. Se sont rassemblés autour d'Aaron, sur Aaron, en fait. Vayomru et Lav, ils lui ont dit, Koum, lève-toi. C'est-à-dire, agis. Asselanu Elohim. Fais-nous des Elohim. C'est un pluriel parce que c'est marqué Asher Yelchou, qui marcheront le Fanenu. Un pluriel. Le Elohim est vu comme un pluriel des divinités. Pourquoi? Qu'ils aient, car celui-là, Moshe Haïch, Moshe l'homme, Asher Elanu Me'eretz Mitzrayim, qui nous a fait monter d'Eretz Mitzrayim, nous a sorti donc d'Égypte. Lo yadanu me'ayalo. Nous ne savons pas ce qui est advenu de lui. Alors vous connaissez la suite. Aaron leur a dit d'y retirer toutes les boucles en or sur vos épouses et de vos fils, vos filles. Apportez-moi tout l'or. Les femmes se sont opposées à ça. Les hommes ont arraché les bijoux. Et le Passouk dit que Aaron a pris tout cet or Vaikach miyadam, il a pris l'or de leurs mains, l'or qu'ils lui ont donné, et Vayatsar oto bacheret. Et il l'a rangé, enveloppé dans un tissu. Vayaseu egel masecha. Il en a fait un veau en métal. Et les Bnei Israël ont dit, Ele Elohecha, voici tes dieux, Israël, Asher Elucha, qui t'ont fait monter Meretz Mitzrayim. Et alors, Aaron a essayé de gagner du temps. Il a construit un misberg, un hôtel, et il a dit que demain, on fera une fête pour Hachem. Chag l'Hachem machar. Le lendemain matin, Vayashkimu, ils se sont levés tôt, Machorat, le lendemain donc. Vayalou, Olot, ils ont approché les holocaustes. Vaygashu, Shlamim, ils ont approché des Shlamim, des korbanot shalem, de l'apaisement. Yeshevaham le chol le château. Le peuple s'est assis pour manger et boire. Vayakum, ils se sont ensuite levés. Betsachek pour s'amuser. Voilà. Tout, voilà ce qui se passe. Moshe est en train de recevoir les Luchot. Hachem lui a donné la Torah. C'est-à-dire, il lui a donné toutes les explications, etc. Il a donné de telle sorte que Moshe puisse s'en souvenir, ce qu'il n'arrivait pas à faire avant. Et à ce moment-là, en bas de la montagne, il y a les réjouissances du Vaudor. Alors Hachem a dit à Moshe, comme je vous ai dit, Lech red kishichet amcha. Descends. Ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte. C'est corrompu. Et puis là, on dit Sarou Maher. Ils ont dévié rapidement. Vite, Maher, c'est vite. Minaderech Asher Tzivitim, du chemin que je leur avais ordonné. Asulahem Egel Masecha, ils se sont fait un veau d'argent, de métal. Vaishtachvulo, ils se sont prosternés devant lui. Vaishbechulo, et ils lui ont offert des sacrifices. Vaishomru, et ils ont dit, Ele Elohecha Israël, Asher Elucha Meretz Yitzraï. Je vous dis encore une phrase. Vayomer Hashem el Moshe. Hashem a dit à Moshe, Raiti et Ha'am Azé. J'ai vu ce peuple. Veine, voici Am Kshe Orefu. C'est un peuple, le fameux peuple à la nuque roide. Et du coup, comme vous savez, Hashem a dit à Moshe, laisse-moi, je vais détruire le peuple. Et je vais commencer un nouveau peuple avec toi. Une remarque sur Rashi, sur le pasuk Asher Yelchou Lefaneinu. On dit à Aaron, fais-nous des dieux qui marcheront devant nous. Rashi dit, Elahu Tarbe. Il voulait beaucoup de divinités. Ils vous l'aiment. Ils avaient envie d'avoir beaucoup de divinités. Ce mot de Boshesh, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais vous pourrez regarder le Amek Dava, hein. Il le met quand même en rapport avec quelque chose. C'est marqué c'est écrit dans la Torah que quand Adam et Chava étaient dans le Gan Eden, ils étaient nus. Et le pasuk dit Veloid Boshashu. Et ils n'étaient pas gênés, ils n'avaient pas honte. Il n'y avait pas de Yetzerara, donc cette nullité ne faisait pas de problème. Donc on entend Loïd Boshashu, Boshesh. Et Magdavar, il met les deux ensemble, il les met les deux en parallèle, la nudité et le retard. Bon, ça nécessite un peu plus d'explications, mais je ne crois pas, enfin, pour l'instant, je ne crois pas qu'on aura le temps de parler de ça. Donc le Satan, lui, il a organisé toute hallucination collective, etc. Les Bnei Israël, quand ils ont pris conscience que Moshe n'est pas revenu, ils ont tout de suite interprété, voilà, ce Ish Moshe, il a disparu, on ne sait pas ce qu'il est advenu de lui, et du coup le Satan, il les aura fait tout un cinéma. Donc les personnes sont complètement perdues parce que Moshe n'est pas revenu à l'heure. Alors ça fait tout de suite penser, évidemment, cette idée d'être perdu parce que Moshe n'est pas revenu à l'heure. Ça fait évidemment penser à un nourrisson qui panique parce que sa mère n'est pas à l'heure. Donc, c'est vrai que le clan Israël, à ce moment-là, il est encore dans la prime enfance. On vient de sortir d'Égypte. Ils ont mis 50 jours jusqu'au Sinaï. Et ensuite, il y a les 40 jours de Moshe sur la montagne. Ça fait 90 jours qu'ils sont sortis de Mitzrayim. Donc, c'est le tout début du début. C'est des enfants. Le grand problème, c'est que ils disent à Aaron, fais-nous des divinités pour remplacer Moshe. C'est-à-dire, le Hegel est un substitut de Moshe Rabbeinu. Avant d'aller plus loin, je voudrais juste rappeler une chose que j'ai déjà souvent mentionnée. La grande question, c'est pourquoi ils se sont fait un veau? Ils auraient pu se faire un aigle, ils auraient pu se faire un lion. Pourquoi ils se font un veau? On devrait plutôt dire un jeune taureau. Alors, on l'a déjà vu souvent. Sur les dgalim, sur les drapeaux des Bnei Israël, Bnei Israël ont demandé d'avoir des drapeaux comme les Malachim avaient des drapeaux à Kabbalat HaTorah. Et Hachem leur a donné des drapeaux, et sur leurs drapeaux, il y a des animaux qui sont représentés. Sur Binyamin, il y a un loup. Sur Yehuda, il y a un lion. La tribu de Yosef avait comme attribut, on va dire, comme représentation, elle avait un taureau. Un taureau. Donc, ce qui est venu là, c'est l'emblème de Yosef. Pourquoi c'est l'emblème de Yosef? Alors, vous vous souvenez, on a expliqué. La sortie d'Égypte joue un rôle absolument fondamental dans la Torah, dans l'histoire du peuple juif. Ça existe, on en parle, je crois, 49 fois dans la Torah, etc. Tout est toujours rapporté à Yetziat Mitzrayim. Toujours, tout le temps. Donc c'est fondamental, cette sortie d'Égypte. Qu'est-ce qu'il y avait avant la sortie d'Égypte? Il y avait l'exil, l'esclavage égyptien. Qu'est-ce qu'il y avait encore avant? Il y avait les Bnei Israël qui sont descendus en Égypte. Yaakov est descendu en Égypte. Et pourquoi est-ce qu'il est descendu en Égypte? Il est descendu en Égypte parce que Yosef lui a dit, il y a encore des années de famine, descends en Égypte, toi et toute la famille, et je vous nourrirai. Je suis le maître de l'Égypte, je vous nourrirai. Vous aurez tout le confort, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Viens, n'aie pas peur, viens. Jacob avait assez peur de descendre. Finalement, il est descendu. Donc, celui qui a fait descendre l'embryon du clan d'Israël, c'était la famille de Jacob à ce moment-là, c'est Yosef. d'une certaine manière, Yosef est, d'une certaine manière, à l'origine, c'est encore défendant, mais à l'origine de l'esclavage égyptien. On a été en Égypte, ça a mal tourné. On y était parce que Yosef nous a fait descendre en Égypte. Et donc, voilà, il se passe quelque chose de très important. Hachem nous a fait sortir de cet exil égyptien. Donc, on a l'impression que la sortie d'Égypte, c'est la réparation de quelque chose qui avait mal tourné, qui c'était peut-être bien ce qu'il fallait faire, mais ça a mal tourné, c'est comme ça qu'on peut l'expliquer. En réalité, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. En réalité, tout commence avec la fameuse Brit Benaparim, la fameuse alliance entre les morceaux. Puis une alliance entre Abraham Avinu et vous vous souvenez, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe à Abraham Avinu, bon, il faudra corriger, je vais me tromper tout le temps, hein, entre Abraham Avinu et Moshe. Mais c'est comme ça. Il faut corriger. Hachem a dit à Abraham Avinu, tu peux choisir ce que tu veux pour ton peuple. Tu peux choisir entre la mort et le galout. Bon, c'est pas la peste et le choléra, mais ça a l'air pas loin, non? C'est pas, non, en réalité, c'est pas du tout ça. Hachem lui a dit, tu peux choisir pour ton peuple. Ton peuple pourrait être un peuple comme les autres qui va avoir des heures de gloire. Ils vont monter très haut, puis ensuite ils vont retomber, éventuellement disparaître. C'est la mort. Mais tu peux aussi choisir le galout. Le galout, c'est une forme faible de mort. C'est la forme faible de mort qu'on retrouve, par exemple, quand quelqu'un tue par inadvertance. S'il avait tué Bemezid, il aurait été chayav mita. Il a tué Beshogeg. Il va en galout. Donc, c'est une forme faible de mort. Mais c'est une forme faible de mort au sens où on ne meurt pas vraiment. Alors, ça a l'air au moins aussi insupportable que la mort. D'accord, c'est l'esclavage égyptien, tel qu'il est décrit, c'est insupportable. Mais c'est toute la suite, toutes les galouillottes des Bnei Israël, c'est le goulag, c'est la Shoah, c'est l'expulsion des Juifs d'Espagne, etc. Avraham Avinu a choisi le galout. Et donc Hachem lui a dit, guerriers Zaracha, ils sont en descendance, ils seront étrangers dans un pays qui n'est pas eux. On va les faire souffrir, etc. Mais à la fin, Yetsu Bichush Gadol. Finalement, ils vont sortir avec un grand butin. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sortie d'Égypte n'est pas la correction de quelque chose qui s'est malencontreusement produit. Il fallait descendre en Égypte pour en sortir. Il fallait descendre dans les ténèbres pour arriver à la lumière. C'est comme ça. La création du monde aussi, c'est Rocher Adnetohom, Yehi Or. Ce processus, c'est toujours là, à l'œuvre. Par conséquent, on peut dire que Yosef, c'est l'autre personnage qui nous a fait sortir d'Égypte. D'accord ? Évidemment, il nous a fait entrer en Égypte, mais cette entrée était en vue de la sortie. On n'est pas entré pour entrer, puis ensuite, il a fallu en sortir. Non, on n'est entré que pour pouvoir en sortir, pour que le Brit, pour que les termes de l'Alliance se réalisent. Et donc Yosef peut être considéré comme le second, dont on peut dire qu'il n'a participé à la sortie d'Égypte. Et donc, remplacer Moshe, qui est celui qui est présenté comme étant celui qui nous a fait sortir d'Égypte, si on n'a pas Moshe, alors on va le remplacer par Yosef. Moshe Rabbeinu, Yosef, c'était aussi la condition de la sortie. N'est-ce pas? Yosef a demandé au Bnei Israël, quand vous sortirez de Mitzrayim, vous prendrez mon cercueil et vous m'enterrerez en Eretz Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Paro, qui savait que les Bnei Israël n'allaient pas sortir sans Yosef, il a fait sceller le cercueil de Yosef au fond du Nil. Il s'est dit, voilà, ben ils sortiront jamais. Mais en fait, Moshe a cherché, on ne trouvait pas, on ne savait pas, mais c'est Arbat Asher, la fille de Asher, celle qui avait déjà annoncé à Yaakov, Od, Yosef Chai, etc. C'est elle qui a vécu très longtemps et qui a dit à Moshe Rabbeinu où était le cercueil. Et donc Moshe Rabbeinu, il a écrit une plaquette sur laquelle il a écrit « Allez, Shor, monte, taureau ». Parce que c'est l'emblème de Yosef. Pourquoi il l'appelait ici? Pourquoi pour sortir d'Égypte? Pour le sortir d'Égypte, il doit être Shor. Pourquoi il n'a pas écrit « Allez, Yosef » ou « Allez, je ne sais pas, il l'appelait Tsoftan Paner ». Il avait le choix. Je ne sais pas répondre à la question pourquoi il a écrit « Allez, Shor ». Mais c'est ce qu'il a écrit. Et il y a un petit malin qui a ramassé la plaquette. Alors, vous voyez une plaquette d'or, vous la ramassez, non? Il a ramassé la plaquette d'or. Et quand Aaron a demandé tout l'or, il a jeté ça dans le chaudron, je ne sais pas où. Ce n'est pas exactement ce qui est écrit dans le texte, hein, mais dans le Midrash. Et c'est comme ça qu'il est sorti, ce taureau. OK. Mais ce qu'il faut regarder ici, c'est cette situation terrible où les Bnei Israël ont remplacé Moshe par des divinités. Ils demandent, les Bnei Israël demandent des divinités. Alors, je vais vous lire, je vais étudier avec vous le Meshech Chochma sur la situation. Meshech Chochma, il est en commentaire sur le 32-19. Au pasouk, c'est marqué, Vaï, Kacher, quand Moshe Rabbeinu est descendu de la montagne, Kacher, Karav, quand il s'est rapproché à la Machane, s'est approché du Machane d'Ebné Israël, Vayar est à Egel, il a vu le veau, ou Mecholot, il a vu les danses. Vaïchar af Moshe. Moshe s'est mis en colère. Ici, on pourrait faire un cours sur la colère. Il y a des situations où la colère est la réponse adéquate à certaines situations. Il faut se mettre en colère. Moshe Rabbeinu s'est mis en colère. Ce n'est pas une colère où tu perds le contrôle de toi-même, mais il s'est mis en colère. Vayashlech miyado, il a jeté de ses mains, il a jeté ta louchot, les louchot, vayashaberotam tachata, et les a brisés au pied de la montagne. Ça, c'est le pasouk. Voilà. Alors, le Meshech Chochma, il faut que vous sachiez, le Meshech Chochma, c'est une super autorité. Hein. C'est un des Gdolim, un des grands. C'est un des Gdolim juste avant la guerre. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Tout le Meshech Chochma est assez extraordinaire. Je dis assez, je ne sais pas pourquoi, mais il est extraordinaire. Alors, il dit la chose suivante. Écoutez bien, c'est très important et c'est important d'entendre ces choses-là dites par quelqu'un qui, enfin, écrite par quelqu'un qui sait de quoi il parle. Aïnyan, qui a Torah va Emouna, la Torah et la Emouna, Emma Ikare Hauma à Israélite. Ce sont des choses fondamentales pour le peuple juif. Vekola Kudushot, et toutes les saintetés, Eretz Israël, Yerushalayim, Hema Prate ou Snife à Torah, ce ne sont que des détails, des articles à l'intérieur de la Torah, et Venit Kachu Bigdushat à Torah. La terre d'Israël, Yerushalayim, tout ce qui est saint, ça n'est jamais saint, sacré par soi-même. Ça n'a rien d'autre, ça n'a pas d'autre que Doucha, que la Gdoucha que leur donne la Torah. Velachen, en chilouk le chol inyane à Torah ben bemakom ben bizman. C'est pour ça que la Torah ne dépend pas du lieu, ni du temps, ni de l'époque. Ishava, la Torah, elle s'impose de la même manière en Eretz Israël et en Chutz La'aretz. Bien sûr, il y a les mitzvot atluyot ba'aretz, mais bon, c'est simplement que, voilà, cette terre-là, sur cette terre-là, il y a des mitzvot particulières. Comme une femme qui est veuve alors que le mari est, donc ils n'ont pas d'enfant, eh bien, elle a une mitzvah de yiboum ou de chalitza, c'est les circonstances qui font que c'est, voilà. Keni shava ben l'adam agavoa shebagvoim. Et la Torah, elle s'applique au plus grand des grands. Elle s'applique à Moshe, Isha Elokim, de la même manière qu'elle s'applique la shafel shebashfalim au plus petit des plus petits. Ou Moshe, Lokaraou a Torah rak sirsour. Moshe Rabbeinu n'est que l'intermédiaire. À quoi ça fait référence? À un pasouk dans Sefer Dvarim, où Moshe Rabbeinu dit Anochi Omed Ben Hashem ou Benechem. Paet Haï Lagid Lachem et Dvar Hashem. Je suis entre Hachem et vous pour vous dire la parole d'Hachem qui yaretem ipnei ha'esh. Parce que vous avez eu peur du feu. Donc, il y avait un son et lumière, un feu, etc. au Sinaï. Donc les Bnei Israël ont eu peur. Et ils ont dit à Moshe, Daber ata imanu, tu nous parles toi. Donc Moshe Rabbeinu n'est rien d'autre qu'un sirsour, il est seulement l'intermédiaire. Aval en ityachsut à Torah, lo, la Torah n'est pas liée à lui de façon générale. La Torah imechuyevet ametziut. La Torah, elle existe, elle doit exister par elle-même. Parce qu'il y a ce fameux Zohar qui dit que la Torah et Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose. Bon, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est pas le tétragramme, c'est Akadosh Baruch Hu. Ou comment chez Umechou, Yava Metsiout, et de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu est nécessaire, comme il est Mechou Yava Metsiout, son existence est obligatoire. Qu'est la Torah est exactement aussi incontournable. Umetsiuta enotalui rak veilatailot idvar shemo. Et l'existence de la Torah ne dépend que de la cause des causes, c'est-à-dire à Kadosh Baruch Hu. Veine dal la sechel katsar yado lasig metsiut mechuyav ametsiut. Bilti tachlit ou bilti moussak. Bon, notre sechel, il est trop petit, il n'est pas capable de comprendre vraiment ce que c'est que cette nécessité absolue de l'existence. Quelque chose qui est absolument impensable en réalité. C'est pas pensable par l'esprit humain. Mais la reine, chatrou lahem mesilot, la sot surot, le dimionot, o kavanim le marechet shamaim, le mor zeu amerkava le elakut. Zeu amashgiach vam savev kolainyanim baolam, velo avdo, zafrou veiktirou. Alors, comme c'est pas pensable, les gens, ils ont inventé des chemins, ils ont inventé des formes, des images, ils ont essayé d'expliquer le fonctionnement du monde. Ils ont servi ces images, ils ont voué un culte à ces images. Ils ont approché des corbanotes, ils ont brûlé de l'encens, Rikudé à Nefesh, ils ont dansé, Ritichut Adam, Nitava, Mimusag, Mochaché, Beniré. Tout ça, ils l'ont fait à partir de choses concrètes. Vous avez besoin de choses absolument concrètes. Et donc, quand ils ont vu que Moshe était en retard d'après leur compte à eux, leur émouna est tombée complètement. Ils n'ont plus eu confiance. Et donc, ils ont voulu fabriquer Hegel, l'oride, à la tsura et ruach mimal. Ils ont fabriqué le Hegel. Ils ont voulu que sur cette forme-là qu'ils avaient fabriquée, descendre un esprit. Ils ont voulu essayer de dire qu'il était une Merkava et la coûte, que ce truc, ce machin qu'ils avaient fabriqué, c'est un support pour la divinité, que c'est lui qui gouverne le monde. C'est lui qui les a sortis d'Égypte. Cette faute-là, elle s'est répétée avec Yerovam. Yerovam, quand il a fabriqué les fameux veaux, il a fait les contre-fêtes de pèlerinage, etc., au moment où il a été, où Hachem lui a donné 10 des 12 tribus du clan Israël, au moment du schisme, après la mort de Shlomo HaMelech. Et c'est là-dessus que Moshe Rabbeinu a crié, il s'est mis en colère. Il a dit, Aïm Tedamu, est-ce que vous vous imaginez qu'Ani Inyan, que moi je suis quelque chose, Vezuk Dusha, Bilti Mitzvat Hashem, et que j'ai une sainteté, j'ai quelque chose qui soit différent de simplement, je fais l'ordre, je fais ce qu'Hashem m'a ordonné de faire, c'est tout. À qui? Et vous êtes allé jusqu'à me donner tellement d'importance que qui beeder que vous dit un système la Hegel. J'étais pas là, alors vous êtes fabriqué un Hegel. Vous êtes tombé sur la tête, Khalila. Gamani ish kmochem. Moi, je suis un homme comme vous. La Torah enat luyabi. La Torah ne dépend pas de moi. Ve'afim lo bati aita Torah bemetziuta. Et si je n'avais pas existé, si je n'étais pas revenu du Sinaï, la Torah n'aurait pas bougé. La Torah, elle existe par elle-même, elle n'a pas besoin de moi. Et la preuve que j'ai aucune kedusha par moi, c'est que pendant les 38 ans que les Bnei Israël, pendant lesquels les Bnei Israël se sont baladés dans le désert, Les Bnei Israël, ils étaient en Kherem, pratiquement. Loya Dibour, Mitiachès le Moshe. La Gemara dans l'Yerushalmi, elle dit que pendant 38 ans, la Hachem n'a pas parlé à Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'Hachem parle à Moshe Rabbeinu pour qu'il parle au Bnei Israël. Comme Hachem ne veut pas parler au Bnei Israël, il ne parle pas à Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu vous dit, vous voyez bien, j'ai rien de spécial. Je ne suis que l'intermédiaire. Que Hachem me parle pour que je vous parle. Et s'il ne veut pas vous parler, alors il ne me parle pas. Ve'alte d'amour, et surtout ne vous imaginez pas qu'il y a Migdash vers Mishkan, que le Beit HaMikdash ou le Mishkan Ema Inyanim Kudoshim Me'atzmam Khalila, qu'ils ont, que le Beit HaMikdash ou le Mishkan a une Kedusha par soi-même Khalila. Hashem Yitbarach Shore Betoch Benav. Akadosh Baruch Hu a décidé de résider parmi ses enfants. Ve'im Rema ke Adam Avrubrit, Usar Mehem Kol Kedusha. Et si, comme Adam Arishon, eh bien, ses enfants ont transgressé l'alliance, il n'y a plus aucune Kedusha, ni dans le Beit HaMikdash, ni dans le Mishkan. Ema ki Kli Chol. C'est complètement profane. Ce qui est écrit dans le passage de Baou Pritzim Vichalloua. Titus est entré dans le Kodesh HaKodashim avec une prostituée. Il ne lui est rien arrivé. Il a arraché le parochet, s'est couché avec elle. Il ne s'est rien passé du tout. Non, Isouk. Il n'a pas été, il n'a subi aucun dommage. Qui ou ça, que du château. Parce que il n'y avait plus de Gdoucha sur le Beit HaMikdash. C'était une coquille vide. Il a thermisé, plus que ça. Alouchot, les tables, qui sont Mirtav Elohim. Ils sont, en fait, ils ont été fabriqués par Elohim. C'est écrit, c'est l'écriture divine. Gamem ha'enam kedoshim be'etzem. Les tables, elles sont pas dues, elles ont aucune kedusha par elles-mêmes. Elles sont kadosh rak bishvilchem. C'est kadosh pour vous. Elles s'adressent à vous. Elles vous donnent un message. Et vous, vous devez les traiter comme des luchot, comme des porteurs de ce message, mais c'est seulement si vous êtes en phase avec ce message. Kacher, et quand Zanta Kala betoch achupata, et quand la Kala était adultère sous la Chupa, les Bnei Israël ont fait le Vaudor au moment où on leur donne la Torah. Ema, Nershavim, le Nivle Cheresh, Vein Baem Kedusha, Mitzadatzman. C'est rien du tout, ça n'a aucune kedusha. C'est seulement si vous, vous respectez, alors il y a de la kedusha. Sauf d'avoir, finalement, en shuminyan kadosh baolam. Il n'y a aucune kedusha dans le monde, miyuchas lo avoda ve'achnia, aucune chose. Pour laquelle il y aurait lieu de le servir, il faudrait se plier, se prosterner devant. Rak Hashem Yitbarach Shemo ou Kadosh Bemetziuto Amchuyavet. Seul la Kadosh Baruch Hu, il est Kadosh et il existe nécessairement. Velo Nae Teila Ve'avoda. Et à son égard, c'est convenable, c'est bien de dire sa louange et de le servir. Le kolak dushot ema mitzad sivui. Toute la kedusha n'est que la résultante des ordres שציווה הבורא לבנות משכן, לעשות בו זבחים, קורבנות, לשם מתברך בלבד. La kedusha, c'est seulement que HaKadosh Baruch Hu il a ordonné de construire ça et d'approcher les korbanot et de faire ce qu'on a dû faire. Les kruvim, les fameux chérubins là qui sont sur le couvercle du Aaron, Khalila, en lahem avoda, il n'y a pas lieu de les servir. Shum marchava veinyan, il ne sait rien du tout. Akzeu kmo akabarnit, c'est la date à ruach. C'est comme quand le capitaine du navire il veut savoir d'où souffle le vent. Azose toren, kenasa aboreid barach simanim. Akadosh Baruch Hu, il a fait des simanim, des tsiyunim, le odia. Im Israël osim retsono shel makom. Pour que nous sachions, est-ce que les Bnei Israël font ce qu'Hachem veut ou pas? Donc là, les Krouvim nous indiquent où on en est. Mais c'est simplement, c'est les, ce que vous voulez, que ce soit un baromètre, que ce soit un hygromètre, ce que vous voulez. C'est les façons de mesurer, exactement comme on a besoin d'un sextant, on a besoin de ces apôtres. Pour savoir où on en est, dans quelle direction on va, c'est rien d'autre. C'est la raison pour laquelle Ein ba'aron rak luchot. Dans l'aaron, il n'y a que les luchot. Il y a aussi un Sefer Torah. Un luchot et un Sefer Torah. Les kruvim, ils sont à l'extérieur. Ils ne sont pas dans le Aaron. Il va chutz, à la kaporet, l'oba Aaron. Rakshemorim, les metziuta malachim, bon, ils indiquent une réalité, il y a des, ce qu'on appelle des malachim, zehu vaï kasher karab el amachane, et c'est ça le sens du verset, quand Moshe Rabbeinu s'est approché du camp des Bnei Israël, en descendant de la montagne. Vayar et Aegel umcholot, Ra'a ki gadal taoutam adasher lo chashvuhu le safek lal. Il a vu qu'ils s'étaient tellement trompés que c'est même pas dans le doute, c'est pas qu'ils avaient un doute et dans le doute ils ont fait quelque chose. Pas du tout, ils étaient sûrs de leur combine. Ki lo ratsu la amod ou la yered, Moshe ou la bid merachok. El Biato. Ils n'ont pas voulu envisager que peut-être Moshe va descendre. Peut-être on s'est trompé dans les comptes. Rakayu meshukaim betoavot haegel asher chashvu le'eloki. Ils étaient enfoncés dans les abominations de l'idolâtrie, donc ce veau qu'ils prenaient pour une divinité. Alors Moshe evin taouta. Moshe Rabbeinu a compris leur erreur. Vaïchar af Moshe, et il s'est mis en colère. Vaïachlech miyadav et talouchot, et il a jeté les louchot. C'est-à-dire, en shum kedusha veinyan eloki klal, il a des metziut aboreit bar shemo. Il n'y a pas de kedusha en dehors d'Hachem. Vim et via louchot, s'ils leur avaient amené les louchotes entières, qu'est-ce qu'ils auraient fait des louchotes? Ayou kemachlifi megel belouchot. Ils auraient substitué les louchotes au egel. Mais ils auraient fait des louchotes, une idole. Dans l'état d'esprit dans lequel ils sont, les louchotes auraient été une autre idole. Velosahum itautam. Ils n'auraient pas dévié de leur erreur. Ils ne seraient pas revenus à la vérité. Oulam kasher shavar alouchot. Quand il a brisé les louchot, Raou, alors ils ont vu. Ech ema lo igiu el matarat haemuna, baruchu vetorato atora. Ils ont compris qu'ils n'avaient rien compris en emuna. Et c'est ce que la Gemara dit à plusieurs endroits. Elle dit, elle dit dans Ta'anit, elle dit, Shigam al et amidatam bahar, Neymar ou Belibam michazvulo. En fait, ça fait référence à un Télim. Mais ça veut dire, en vérité, ils étaient au Sinaï. Ils étaient déjà en train de mentir. La Gemara, elle dit au Sinaï. Ils ont dit oui, mais c'était déjà un mensonge. Shadayen lo nerkak betocham atziur ha'amati. La'amin benimtsa mechuyav ha'metziut bilti musag ou bilti metsuyar. Ils n'avaient pas du tout encore compris, intériorisé la vérité. Il fallait avoir Emouna dans le Nimsa Mechouyav, dans celui qui est nécessaire, Hachem. Même si, en fait, on n'arrive pas, on ne peut pas se le représenter. On ne peut pas le dessiner. Et c'est pour ça qu'ils ont fait le Vaudor. Ubaluchot et Ralaem, la Kor Mehem, Kol Dimayon Kosev. Et en brisant les luchot, il a essayé de leur montrer qu'ils étaient complètement dans l'erreur. Vifli la sot Moshe Rabbeinu bishvirat haluchot. Et ce qu'il a fait, c'est extraordinaire ce qu'il a fait là. Lachen natan lo HaKadosh Baruch Hu yasha. HaKadosh Baruch Hu lui a dit yasha korakha. C'est bien, je suis d'accord avec toi. Et c'est pour ça qu'Hachem lui a dit par la suite, il a dit, psal lecha, shne luchot avanim, voilà, taille deux pierres, de nouveau, deux tables de pierre, khataftia la luchot. J'écrirai sur ces luchot-là, ces nouvelles luchot, ce qui était écrit sur les luchot que tu as brisées. C'est-à-dire, gamken liyot le hot al shoresh, à la shoresh. Shelimat talaem beshvirat aluchot. Ze ki luchot veshivrei luchot munachim baaron. C'est pour ça que dans le haron, il y avait à la fois les deuxièmes tables et aussi les brisures des premières. Pour bien leur montrer que les premières qui étaient maase elokim, fabriquées par HaKadosh Baruch Hu lui-même, ou Bichvodo Asaan, c'est lui-même qui les a fabriqués, Rachid dit, et Mashvurim. Elles, ces tables-là, elles sont brisées. Et les tables que Moshe a faites, c'est Moshe qui les a taillées, et celles-là, elles sont entières. Pour bien montrer qu'il n'y a pas de Gdusha dans ce qui a été créé. La Kdusha, elle vient seulement du fait que les Bnei Israël respectent la Torah. C'est la Torah qui vient d'Hachem. Et il dit peut-être que à peu près tout ça s'est inclus entièrement dans le Sefer Dvarim. La Aziram Bezé, lorsque il dit, l'oreitem kolt muna, vous n'avez pas vu d'image au Sinaï. Ishamer lecha, faites vraiment attention à ça. Et il faut dire que gamze mikla la taout chez Amrou, il y a aussi une erreur énorme qui a été faite. Ils ont dit chez Moshe, Elan Meretz Mitzrayim. Ils ont dit que c'est Moshe qui les a sortis d'Égypte. Selon Moshe Elan, Rak, Ayashliach, les d'abord, le Paro. Moshe était l'envoyé d'Hachem pour parler à Paro. אבל הקדוש ברוך הוא בהשגחתו הפרטית העלן. זה fait partie de la providence spécifique pour le clan d'Israël. C'est Hashem qui les a sortis d'Égypte. וכך אמר הקדוש ברוך הוא, לך רד, כי שיחת עמך, אבל הוא יקספיק, למשך חוכמה, qu'est-ce que ça veut dire, descend ton peuple, c'est corrompu, quelle est la corruption? שאמרו אשר העלית מארץ מצרים, parce qu'ils ont dit que c'est toi qui les a sortis d'Égypte. Ça dit qu'en vérité, toi aussi te prie pour une divinité. C'est ça qu'Hachem a dit à Moshe Rabbeinu. Kilou Aitamala Otan Aitamale Otan Mitzrayim Mikoach Eloki Bilti Ashgachati Ayapratit. Comme si tu les avais sortis d'Égypte avec ta propre force, sans passer par Ashgacha. C'est très important à savoir, dit-il. La reine Bechukat, qui amrou, quand ils ont dit, dans Parchat Chukat, quand les Bnei Israël ont dit, ils ont reproché à Moshe, ils lui ont dit, Lama Elitunu, pourquoi est-ce que tu nous as montés d'Égypte? Immédiatement, les Nechashim, les serpents sont venus et les ont piqués. Franchi. Parce qu'ils sont piqués, pourquoi? Parce qu'ils ont dit une chose fausse. Donc, il faut faire très attention. C'est pour ça que le Baal HaGadah, il n'a pas mentionné Moshe dans la Haggadah de Pessah. Bon, c'est surprenant quand même. Bon, n'importe quel enfant du Cheder, il va citer Moshe dans la sortie d'Égypte. Quand un père enseigne à son enfant la sortie d'Égypte, il ne mentionne pas Moshe Rabbeinu, si on s'en tient au texte de la Haggadah. Et s'il le dit, il doit bien expliquer que Moshe n'était que celui qui allait parler à Paro, mais que c'est Hachem qui nous a sortis d'Égypte. Bon, c'est marqué dans le Torah de Kohanim, c'est écrit, d'abord, pourquoi est-ce que c'est marqué deux fois Moshe? Hachem a appelé Moshe, Moshe. Ou Moshe, Hachelon, Idaber, Imo. Ou Moshe, Michel, Idaber, Imo. C'est le même Moshe avant qu'Hachem lui parle et après qu'Hachem lui parle. L'Oyal Moshe, Shuminyan, Okoach, להשפיע לאחר, לאחר שנדבר עמו. משה רבינו n'a pas plus de force après qu'Hachem lui ait parlé. לבד מה שרצה הקדוש ברוך הוא בכל פרט, כפי הצורך, להנהגה הניסית לאותה שעה, il a juste la force qu'Hachem lui donne à chaque coup quand Hachem veut qu'il fasse quelque chose. אבל התורה היא מציאות זולתו. La Torah, elle existe en dehors de Moshe. La vérité, on pourrait encore en parler plus longuement, parce que je n'ai pas tout à fait terminé, mais on va s'arrêter là. Je pense que c'est suffisant pour que vous ayez bien clairement dans la tête que toute autre présentation des choses, c'est idolâtrie. On peut idolâtrer Moshe. On aurait pu idolâtrer les tables de la loi. La Gemara dit on peut idolâtrer un Sefer Torah. Il n'y a aucune Kedusha, ni sur la terre d'Israël, ni à Yerushalayim, ni dans le Beth Amikdash, ni dans le Mishkan, ni nulle part autre que la Kedusha donne à cet endroit ou à cette personne à un certain moment pour faire quelque chose de précis. Il n'y a pas de Kedusha par soi-même. Il n'y a pas de terre sainte par elle-même. Il n'y a pas de ville sainte, sacrée par elle-même. Et dès le moment où on ne fait pas ce qu'il faut, on a vu le Beth Amikdash, c'est tout, c'est une coquille vide. Un Titus, il peut prendre une prostituée dans le Kodesh HaKodashim. Il ne se passe rien. Rien du tout. Donc, il faut faire très attention parce que si on ne fait pas attention, on est complètement dans l'idolâtrie. On ne s'en rend pas compte. C'est vrai que, là aussi, notre idée de l'idolâtrie, c'est une idée qui ne se comprend que si on ajoute Shabbat, si on ajoute Kibbud Av V'Em, si on ajoute Lotir Tzar, etc. Si on n'ajoute pas les autres phrases, les autres paroles, on ne comprend pas ce que c'est que l'idolâtrie vue par la Torah. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle l'idolâtrie à l'extérieur. Parce que ça n'existe pas pour soi. L'idolâtrie, c'est une idolâtrie seulement quand elle est comprise dans l'ensemble de la Aseret HaDibrot. Voilà. OK. Alors, Shabbat Shalom.